Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer d'abord par dire que je suis très content. Je remercie déjà de m'avoir permis de revenir à Rennes à l'occasion de cette conférence, après de nombreuses années, puisque j'étais rennais au moment où l'IRISA a été créée, déjà fort longtemps. Bien, alors ce que je voudrais expliquer rapidement, en plus une demi-heure, hein, c'est dans quelle mesure le sujet qui est très à la mode, la conduite automatisée, à sa place dans le cadre de cette conférence. Et comme vous vous en doutez certainement, l'un des buts fondamentaux poursuivis par les tenants de la conduite automatisée, partiellement ou totalement automatisée, ce qui est sans doute le but ultime, c'est-à-dire les humains ne s'occupent plus de conduire. C'est de diminuer de manière significative le taux d'accident, qui est assez énorme. Si on inclut les blessures graves sous le terme accident, et le but est une réduction significative, donc pour donner un ordre de grandeur, divisé par 10 ce taux d'accident grave. Tout en maintenant une autre propriété que les réseaux véhiculaires conduits par des humains assurent, c'est-à-dire l'efficacité, grande densité. Par exemple, si on imagine la traversée du rond-point de l'étoile à Paris, aux heures de pointe, eh bien, les humains se débrouillent assez bien pour réussir à traverser ce rond-point tous les jours, sans qu'il y ait pratiquement aucun accident, à des vitesses assez raisonnables, de l'ordre de 20 à 30 km/h. Et je pense qu'il est loin le temps où on verra le véhicule entièrement automatisé être capable d'en faire autant. Sans être obligé de maintenir des distances énormes entre eux pour éviter des accidents. Donc ces deux objectifs sont contradictoires. Pour fixer le cadre de mon intervention, il faut savoir que depuis déjà une dizaine d'années, en fait, les roboticiens sont à l'œuvre et ont développé des solutions basées sur des capteurs de différentes formes, appellations à radar, capteurs laser, lidar, etc., qui permettent aux véhicules d'être dotés en fait des sens de la vision et du toucher. Le toucher étant en fait le fait que les radars, quand deux véhicules sont proches l'un de l'autre, font ce qu'il faut pour qu'ils se maintiennent éloignés. Il se trouve que, bien évidemment, si les véhicules doivent être aussi comment dire, efficaces en conduite autonome ou automatisée que les humains, il faut qu'ils soient dotés de tous les sens dont sont dotés les humains. Donc, on a pu le vérifier, hélas, par le passé assez rapidement. Il manque aux véhicules simplement robotisés les facultés de parole et d'ouïe. Donc, ici, je parle précisément des communications radio tout d'abord et puis optique dans un deuxième temps. La meilleure raison de se convaincre que c'est nécessaire de permettre aux véhicules de communiquer, c'est qu'il y a eu des accidents, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse il y a encore quelques années. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire que les véhicules partiellement automatisés ou autonomes, genre Google Car, ont fait des millions de kilomètres sans accident. C'est faux, c'est un mensonge. Le premier accident a eu lieu juste en face du quartier général de Google à Mountain View en 2011. Deux Google Cars se sont rentrés dedans et ont entraîné dans leur accident trois autres véhicules, qui eux n'étaient pas de chez Google. Donc il y a de bonnes raisons de croire qu'il faut aller plus loin. D'autant plus qu'il y a à peine un an, un propriétaire de Tesla est mort décapité, puisque sa voiture est passée sous un semi-remorque. Donc, les communications entre véhicules, V2V voulant dire vehicle to vehicle, c'est certainement ce qu'il faut prévoir d'ajouter. Alors, jette de côté le pavé qui traite de cognition et d'intelligence artificielle, parce que là-dessus, il y aurait besoin de faire un exposé complet d'au moins une demi-heure. Alors, j'essaie de savoir comment on avance, comment on fait avancer le. Peut-être besoin de le brancher, non? Ah, c'est comme ça. J'utilise dans les sens. Merci. Donc, ici, je vous présente sur une planche. Un ensemble de technologies qui est inspiré du standard WAVE, qui veut dire Wireless Access in Vehicular Environment, qui a été conçu il y a maintenant presque une dizaine d'années par un comité de l'I3E, qui s'appelle le comité I3E 802.11P, qui est une variante du Wi-Fi, variante qui a été définie pour tenir compte des effets de véhicules qui se déplacent rapidement, donc devant, par exemple les effets Doppler. Mais c'est du Wi-Fi. C'est du Wi-Fi. Et cette norme a été, enfin, le choix qui a été fait par le comité 802 était basé simplement sur le fait que le Wi-Fi existait et qu'il suffisait d'en faire une version adaptée pour les véhicules, sans plus aller plus loin. Donc, ce sont des communications omnidirectionnelles dont le rayon radio est de l'ordre de 300 mètres, ce qui veut dire que le rayon interférence radio est de l'ordre de 450 mètres environ. Et l'idée sous-jacente est bien évidemment que, grâce à ces technologies-là, les véhicules vont pouvoir communiquer non seulement entre eux, mais avec des relais terrestres qui sont situés le long des routes, des autoroutes ou en ville, qu'il s'agisse de roadside units, RSU, donc des technologies qui appartiennent au monde aux industriels des infrastructures routières, ou bien aux opérateurs téléphoniques 5G dans peut-être pas très longtemps. Le point important à retenir, à part l'aspect robotique embarqué qui tient compte évidemment des aspects physiques et cinématiques, pour cette conférence, il faut bien voir que ce qui relève des communications intervéhiculaires aujourd'hui, c'est basé sur une idée assez simpliste de ce que sont les futurs véhicules à conduite autonome, c'est-à-dire des smartphones sur roues, des ordiphones sur roues, pour utiliser les termes français. Alors, ceci n'est pas sans conséquence, puisque vous savez tous, comme moi, ce que l'on risque quand on utilise un smartphone, un ordiphone, pardon. Même si on déconnecte la géolocalisation GPS, enfin bon, le traçage est possible et les intrusions également. Donc, un premier choix qui est a posteriori assez bizarre, fait par cette communauté-là, que j'ai baptisé Wave 1.0 pour suggérer qu'il y aura une suite, Wave 2.0, ce ne sont pas des termes officiels, hein, c'est une terminologie qui m'est propre, c'est que les données qui sont échangées entre véhicules sont toutes traitées de la même manière, qu'il s'agisse de données qui ont pour but d'assurer l'innocuité, c'est-à-dire d'éviter les accidents, ou bien des données personnelles, ou d'infotainment, ou d'informations sur le trafic. Ça, c'est un choix qui est assez curieux. D'autre part, les tenants de solutions Wave, ayant constaté, après quelques années d'expérimentation, qu'effectivement, on n'arrivait pas à améliorer l'innocuité, à faire mieux qu'avec la robotique, en se contentant des standards Wave, 802.11p et 1609, eh bien, il fallait faire autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qui s'appelle le balisage, periodic beaconing en anglais, où les véhicules sont tenus de diffuser entre 1 Hz et 10 Hz leur position en clair, leur position GPS, afin de permettre aux autres véhicules autour d'eux de fabriquer ce qui s'appelle des local dynamic maps qui permettent d'avoir une idée de situational awareness, je suis sûr que vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Donc l'idée est qu'avec des messages diffusés assez souvent, chaque véhicule entretient une carte qui lui permet de savoir où sont les autres et ceci devrait permettre d'éviter les accidents. C'est faux, cette hypothèse est fausse malheureusement, il faudrait que vous lisiez le papier pour vous en convaincre, j'ai obligé de me croire sur parole en ce moment. Et en fait, il y a des résultats d'impossibilité derrière cette idée qui font que deux véhicules peuvent avoir deux cartes différentes parce que les communications ne sont pas fiables tout simplement. Donc ça n'amène rien de plus que la robotique embarquée. Ce que ça amène, par contre, ce sont tous les cyber-risques, c'est-à-dire le cyber-espionnage et les cyber-attaques. Donc, ayant réalisé que ces solutions étaient très limitées, une autre communauté s'est posée la question, notamment la communauté scientifique, savoir s'il n'existait pas d'autres approches. Et effectivement, la réponse est oui. C'est-à-dire que ce qui est baptisé Wave 2.0 ici, on n'utilise pas des télécommunications Wi-Fi pour permettre aux véhicules d'échanger des messages ayant pour but d'améliorer l'innocuité, mais on échange des messages, c'est-à-dire en proximité immédiate. La réflexion de départ est assez triviale dans la mesure où, si on se pose la question de savoir dans quelle mesure des accidents peuvent se produire, ils ne peuvent se produire qu'entre véhicules suffisamment proches, trop proches, et donc il est inutile d'envoyer des communications radio sur 300 mètres autour d'un véhicule pour pouvoir éviter les accidents avec le voisin longitudinal ou latéral. Donc, partant de cette observation évidente, toute une communauté scientifique et d'ingénierie se sont penchés sur les communications directionnelles et de courte portée avec des antennes adaptatives permettant de ne faire correspondre entre eux que les véhicules suffisamment proches, que ce soit pour circulation autoroutière, comme c'est montré sur la première image, ou bien pour traverser des ronds-points sans signalisation comme le rond-point de l'étoile. Le principe qui vient juste après cette observation, c'est que, bien évidemment, les messages en question, ceux qui permettent à un véhicule de dire à un autre véhicule « j'ai l'intention de changer de style, donc faites-moi de la place », ça n'a strictement rien à voir avec les données personnelles. Donc on coupe ici un lien mortel entre deux types de données, les données pour la safety, l'innocuité, et les données pour échange d'informations que l'on peut pratiquer avec les ordiphones. Le point fondamental, à partir du moment où on a observé cette évidence, c'est qu'on peut, on tient peut-être là, by design, des solutions qui vont permettre d'assurer ce qui est fondamental et de découper le lien terrible qui existe aujourd'hui avec les solutions en passe d'être normalisées, c'est-à-dire les cyberattaques peuvent mettre en péril l'innocuité, donc peuvent créer des accidents. Si on arrive à démontrer qu'avec des communications intervéhiculaires, radio-optiques, il est impossible qu'existent des cyberattaques qui mettent en péril l'innocuité, alors on a gagné. Alors voilà ce qui pourrait être à l'avenir le modèle d'un système bord d'un véhicule à conduite très automatisé ou totalement automatisé. Ça rappellera certainement des architectures de systèmes qui vous sont familières, que ce soit dans le milieu de la défense ou le milieu du transport aérien. Il y a bien évidemment ségrégation totale, isolation totale entre la partie safety critical, celle qui assure l'innocuité ou les vies humaines, et puis celles qui permettent de faire de la communication avec le monde extérieur, ce que je vais représenter à nouveau par l'image qui caractérise l'ordiphone sur roue. Donc l'idée est la suivante, il existera des communications pour la sécurité routière, c'est l'INQT, SCC, un module qui ne travaillera que sur des communications proches, à 20 à 30 mètres, pas plus, couplé au système Safety Critical qui s'occupe de la robotique embarquée, qui peut prendre le contrôle du véhicule si c'est nécessaire, qu'il y ait des humains à bord ou pas. Et puis l'autre partie qui est ouverte, je dirais, pour simplifier, aux quatre vents, c'est-à-dire qui reçoit des messages depuis les roadside units, depuis les réseaux de télécom, ou bien depuis d'autres véhicules, parmi lesquels il se peut qu'il y ait des véhicules malfaisants qui essayent de créer des conditions accidentogènes. Et là, s'effectuera un premier filtrage dans la partie non safety critical, celle qui était à droite de l'écran, et les messages qui sont destinés éventuellement à la partie safety critical ne sont pas écrits par la partie non safety critical, c'est la partie safety critical qui ira lire dans les mémoires de l'autre module. Il n'y a pas d'intrusion possible à travers la ligne en pointillé mauve. Ce qui change complètement l'équation concernant les cybermenaces, parce que du coup, il est évident que les cybermenaces distantes fomentées par des véhicules éloignés dont j'ignore l'existence sont bloquées et ne peuvent atteindre la sous-partie qui est safety critical. Et donc, les cybermenaces donc, qu'il va falloir traiter dans la partie bleue sont uniquement des cybermenaces rapprochées, c'est-à-dire des cybermenaces, des attaques qui seraient en fait fomentées par des véhicules qui sont autour de mon véhicule. Alors, ça change l'équation complètement, parce que si les cyberattaques en question ont pour but de créer des accidents, l'attaquant se met lui-même en danger. Il est forcément à côté de mon véhicule, juste devant, ou juste derrière, ou juste sur les côtés. Ça peut faire réfléchir. On ne peut pas supposer qu'il n'y aura pas d'attaque irrationnelle. Notamment, suite à l'intrusion, un véhicule foncièrement honnête devient malhonnête, malfaisant, parce qu'il a été victime d'une intrusion. Ceci n'est pas aussi grave que dans le cas général, parce que, bon, à nouveau, il faudrait que vous lisiez le papier si vous voulez vous en convaincre, ou d'autres papiers qui sont référencés parmi les 41 références que j'ai dans mon papier. Les cyberattaques rapprochées du genre civil attaque, usurpation d'identité, masquerading, falsification de messages, injection de leurre, tout cela, ces attaques-là sont étant fomentées par des véhicules qui sont proches et sont détectables immédiatement et la rétorsion est immédiate. Alors la rétorsion en matière de véhicules automatisés, elle est nécessaire dans la mesure où, faisant Le but étant d'éviter d'être obligé de recourir à une entité externe qui implique des communications avec des clouds ou avec des relais terrestres, qui sont, on le sait, des moyens de communication très vulnérables et donc qui peuvent éventuellement aggraver les attaques dont est déjà victime un véhicule qui se comporte de manière anormale. Alors ici, j'essaie de représenter sur une seule planche un sujet très compliqué. J'ai mis la référence du papier qui, à mon avis, est fondamental si vous vous intéressez à ce sujet-là, qui date de 2015, où toutes les techniques de pseudonymisation des véhicules sont expliquées. Alors il y a différentes possibilités, il y a six possibilités. Une seule a été retenue par les comités de normalisation à l'heure actuelle. Elle est basée sur l'idée qu'un véhicule est enregistré par une autorité administrative ou une autorité qui a délégation pour le faire, préfecture de police par exemple. Et au moment de l'enregistrement et de l'autorisation de la mise en circulation de véhicule, l'identité du propriétaire ou de la société qui est propriétaire se voit attribuer un certificat CE indice ID. Et ce lien identité CE indice ID, l'autorité administrative est la seule à connaître ce lien qui donc est réversible, qui permet, si on montre le certificat CEID, de savoir qui est l'individu, physique ou moral, qui est derrière ce certificat. En même temps qu'un certificat est attribué à un véhicule qui se fait enregistrer, le certificat est bien évidemment inscrit dans la boîte noire du véhicule. En même temps, un certain nombre de pseudonymes, assez nombreux, typiquement 10 000, 20 000 pseudonymes, avec chacun un certificat, donc pseudonyme PS, certificat CE de PS. Ce sont deux couples de clés RSA, pour simplifier, de clés asymétriques, qui sont inscrites également dans la boîte noire du véhicule et qui vont lui permettre, une fois qu'il va circuler, de masquer son identité avec des pseudonymes. Donc le but, c'est de permettre à des véhicules de communiquer entre eux en s'assurant qu'un message qui est reçu par un véhicule est validé, c'est-à-dire qu'il a été mis par un véhicule qui a été enregistré, donc qui est authentifié, dans la mesure où la signature qui est faite avec le pseudonyme qui est utilisé par l'émetteur de message, cette signature est vérifiable avec le certificat CE2PS qui est associé au pseudonyme. Donc les pseudonymes, évidemment, doivent être changés très souvent, idéalement à chaque envoi de message, pour éviter la traçabilité. C'est loin d'être évident, dans la mesure où ça requiert des puissances de calcul et communication assez épouvantables. Si on change de pseudonyme à une fréquence de 10 Hz, on voit qu'il faut très vite recharger. Et dès l'instant qu'on est obligé de se mettre en relation avec des réseaux externes pour recharger une boîte noire en pseudonyme, eh bien, on se met en danger, on a droit aux attaques man in the middle, etc. Vous connaissez très bien. Donc, le problème avec les solutions qui sont en voie de normalisation, c'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de désaccords encore dans les comités de normalisation et les consortias qui s'occupent de cela. Ça fait déjà 10 ans de travaux qui sont injectés sur ce problème-là et l'accord est loin d'être fait. Donc, il est peut-être temps de passer à ce qui s'appelle Web 2.0, où on renonce au balisage, qui n'a absolument aucun intérêt, et qui rend vulnérables les véhicules. Et on peut montrer qu'il est possible de pratiquer la pseudonymie sans être obligé de recourir à des accès en ligne, à des réseaux externes, pour utiliser les pseudonymes qui ont été chargés initialement au temps zéro dans chaque véhicule. L'idée est la suivante. Est-ce qu'il est possible d'exhiber l'équivalent de ce qui s'appelle réseau de confiance dans d'autres domaines dans les réseaux véhiculaires? Eh bien oui. Donc là, je suis obligé de passer rapidement, mais dans la mesure où on structure les réseaux, parce que ce qui est très étonnant dans les papiers qui parlent de pseudonymie et des problèmes que je viens d'évoquer, c'est qu'on parle de un véhicule est exclu du réseau s'il se comporte de manière anormale. Il n'y a aucune définition de ce qu'est un réseau véhiculaire. Donc ça pose un problème assez fondamental. Et en fait, ici, très rapidement, je présente une organisation cyberphysique spontanée qui s'appelle Ecohort, qui a une spécification et qui permet d'expliquer ce que veut dire être exclu d'une cohorte ou être admis dans une cohorte. Donc l'idée est la suivante, j'utiliserai un pseudonyme, un véhicule utilisera un pseudonyme lorsqu'il essaiera de faire une entrée dans une cohorte, soit de manière longitudinale, en rattrapant une cohorte, soit de manière latérale, au moment où il change de voie. Et à ce moment-là, évidemment, il faudra que ceux qui sont déjà membres d'une cohorte vérifie que le nouvel entrant a déjà été authentifié et que c'est un véhicule légitime. Donc c'est là qu'interviennent les pseudonymes, mais au lieu de les consommer à raison de 10 Hz, vous voyez que dans ce cas-là, on les consomme uniquement à chaque fois qu'il y a changement de cohorte, ce qui est bien, qui conduit à une fréquence bien inférieure. Donc très rapidement, on voit les propriétés qu'il faut pouvoir assurer. L'idée pour éliminer les falsifications ou les injections de leurre, c'est d'avoir des primitives de communication qui portent sur deux véhicules devant. Je parle du câble longitudinal. Donc du coup, c'est simple. Un véhicule n'a confiance dans un message reçu de l'un de ses deux voisins que s'il est, il est vu deux fois par, émis par l'autre voisin aussi. Ça élimine les problèmes que vous connaissez bien. L'espionnage devient intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où, à part les pseudonymes, vous attribuez des numéros de rang dans une cohorte avec J qui est le numéro de voix, eh bien, vous avez affaire à des noms qui sont deux entiers et qui ne contiennent aucune information privilégiée. Et ces noms-là étant totalement anonymes, le fait que je suive un véhicule qui s'appelle 7-2 et qui ensuite devient 13-3 et puis 182-2 à nouveau, ça ne me permet pas de savoir qu'il s'agit du même véhicule. Et en plus, ça ne m'apprend rien sur ce véhicule. Voilà, donc très rapidement, puisque j'arrive presque à en buter, il est bien évident que dans ces messages destinés à assurer la coordination rapprochée entre véhicules qui sont proches les uns des autres, eh bien, il est totalement inutile d'inscrire les coordonnées GPS. On a simplement besoin des distances relatives entre véhicules. Je vais tenter de passer rapidement. J'espère que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a utilisé un pseudonyme et qu'on est membre d'une cohorte, à ce moment-là, on peut échanger librement les messages en utilisant simplement les noms anonymes, RJ, et l'arrêt du véhicule, lui, est d'un véhicule malfaisant, est obtenu grâce à l'existence de cette boîte noire dans laquelle sont spécifiés des prédicats qui sont liés aux solutions algorithmiques et les protocoles de communication courte portée qui sont utilisés par les véhicules pour communiquer. Et dès que l'un des prédicats en question est violé, à ce moment-là, la boîte noire prend le contrôle, elle envoie un message à la partie robotique. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais continuer. Elle envoie un message à la partie robotique. La robotique prend le contrôle du véhicule. Les humains, s'il y en a à bord, n'ont absolument plus aucun moyen d'intervenir. Les feux de détresse sont allumés, la vitesse est réduite, le véhicule change de voie et puis s'arrête quelque part en émettant des messages en diffusion, éventuellement chiffrés, destinés aux autorités qui ont le droit, la police, les ambulances si c'est nécessaire, les compagnies d'assurance, d'intervenir et d'inspecter le véhicule qui est immobilisé quelque part. Donc les punitions peuvent être sévères en fonction des comportements malfaisants. Donc c'est l'imputabilité qui compte dans ce cas-là, et elle est assurée par l'existence de cette boîte noire qui est proactive. Bon, j'ai dit très rapidement tout à l'heure, voilà comment on utilise les pseudonymes, de manière latérale, si on change de voie, ou de manière longitudinale, si on rattrape une cohorte. Et le seul risque... Le seul risque que l'on court dans ce cas-là, c'est de ne pas pouvoir entrer dans une cohorte, mais l'innocuité n'est pas mise en défaut, c'était le but recherché. Alors derrière toutes ces questions techniques, il y a quelque chose qui se profile et qui est un choix de société, et ça nous concerne tous, à savoir que si on laisse faire les standardisateurs actuels, et notamment le département des transports américain, qui a pris les décisions selon lesquelles tous les véhicules mis en service à partir de 2020 aux États-Unis devront être dotés des solutions que j'ai baptisées Web 1.0. Si on laisse faire ceci en Europe, eh bien, ça veut dire que nous irons vers une société qui, non seulement l'espionnage terrestre en tant qu'individu qui se déplace doucement, lentement, est possible, mais on sera également sujet à l'espionnage et à la cyberattaque lors de nos déplacements motorisés, en étant en plus assujetti à payer les services PKI et les services de télécommunication pour la pseudonymisation. Ou bien, si les autorités concernées font ce qu'il faut, et puis les industriels que ça intéresse, et ils existent, maintenant les industriels du temps réel, des systèmes embarqués que vous connaissez bien, eh bien, on pourra éventuellement, plus tard, avoir le droit de circuler sans être cyberespionné ni cyberattaqué et à coût nul. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt à prendre peut-être quelques questions.
Merci Gérard. Donc la parole est à la salle. Une question ? On a une en bas.
Bonjour, vous avez mis en avant l'aspect innocuité. Vous avez dit à la fin que dans la solution que vous proposez, en dehors des aspects innocuité, ça restait quand même vulnérable à certaines attaques, comme par exemple l'impossibilité d'intégrer une cohorte. Quels sont les autres aspects comme ça, type disponibilité, qui pourraient être exploités au travers de ces protocoles-là, sans mettre en cause l'innocuité, c'est-à-dire je stimule un bouchon, ce qui fait que tous les véhicules sont amenés à ralentir, par exemple, ou des choses comme ça.
Je simule, si vous pouvez répéter, je simule le cas que vous spécifiez.
L'idée, c'est de faire croire au véhicule qu'il est entouré de véhicules qui sont plus lents que lui, de façon à forcer les véhicules à partir et provoquer des bouchons, enfin,
oui.
Sans porter atteinte à l'innocuité, mais vraiment porter atteinte au service, faire une atteinte en disponibilité, en fait.
Alors, je pense que vous avez en tête les alarmes qui permettent de prévenir des véhicules qu'il y a un accident ou un embouteillage à 900 mètres. C'est cela ? Aucune, évidemment. Alors, effectivement, une faiblesse qu'on pourrait supputer, c'est justement le fait que les communications étant strictement locales, on ne dispose plus apparemment des alertes qui correspondent à des situations déplaisantes, genre embouteillage, ou potentiellement accidentogènes, comme accident, au-delà de la portée radio des véhicules qui, selon WEF 2.0, ne sont que locales. Alors là, en fait, la distinction qui permet de lever ce qui est une apparente limitation, elle est basée sur l'observation suivante. Toutes les solutions qui sont d'ailleurs baptisé WEF 1.0 ou WEF 2.0, sont des solutions qui ont pour but d'éviter les accidents. Et la confusion qui existe dans les documents manipulés par les organismes de normalisation, c'est qu'un message d'alerte qui est émis par un véhicule qui a été accidenté, donc il y en a au moins deux d'ailleurs qui émettent dans ce cas-là, à moins que le véhicule soit parti dans les décors tout seul, c'est un message d'aveu d'échec. Ce n'est pas un message qui permet d'éviter l'accident. C'est un message qui dit « excusez-nous, il y a eu un accident, alors maintenant faites ce qu'il faut pour cela ». Alors cela peut être traité par les infrastructures routières qui, si elles existent en quantité suffisante, pour permettre de relier ces messages qui viennent de loin pour prévenir des véhicules en approche qu'il faut faire quelque chose. Je vous dis ça, mais en fait je n'y crois qu'à moitié, parce qu'aujourd'hui les véhicules les derniers modèles de Daimler-Benz ou d'autres, et donc ce sera encore plus vrai à l'avenir, sont dotés de radars de différentes technologies, des radars courte portée, moyenne portée, et des radars longue portée, qui portent à 200 mètres, 300 mètres. Donc il est probable que ces messages d'alerte, qui semblaient fondamentaux il y a quelques temps, en fait n'aient plus beaucoup d'utilité dans la mesure où bien il n'y a aucun obstacle entre moi et une zone accidentée, et à ce moment-là, mon radar me le dit. Ou bien il y a d'autres véhicules qui s'interposent entre moi et les zones accidentées. Et dans ce cas-là, je vois bien que ces véhicules ralentissent. Donc moi, je vais ralentir aussi. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais bon, on pourra en discuter davantage si vous le souhaitez.
On peut prendre une autre question, s'il y en a une dans la salle.
Pour terminer sur la réponse, sachant que les messages d'alerte venant de loin, donc de véhicules qui ne prennent aucun risque, sont évidemment des cas idéaux d'attaque malfaisante.